Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bienvenue, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Aligre FM 93.1, je suis Kat, l'homme du 92, vous écoutez Championne, votre émission sur le sport féminin. Nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline, en l'occurrence ce soir on parlera starting block, chaussure à pointe, world record, t'as vu je suis fort en anglais.
Waouh.
Merci. 100 mètres, 200 mètres, donc on parlera d'athlétisme, de la légende de la semaine, la bronze queen, la reine du bronze, Merlin Otey, la jamaïcaine Rastafari, comme disent les jeunes. Pour cet épisode, je serai accompagné d'Elodie, la spécialiste en télécom animalier, en pack premium de la galère et de l'élégance en polo. Ça va Elodie?
Je crois que c'est la meilleure description que tu aies fait de moi.
Merci, j'ai bossé cet été. Alors où vous soyez, bonne écoute, merci de votre attention, cet épisode c'est l'épisode 2 de la saison 2. Et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez, auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous allons donc parler d'athlétisme, de la ligne de départ. J'ai perdu, moi, de ma superbe depuis longtemps sur le sprint, il est vrai. Mais je parie un McDo que je prends en même temps sur 100 mètres, François Bayrou, Michel Barnier et Elisabeth Borne. Qu'en penses-tu, Elodie?
Je pense que oui, il y a moyen. Il y a match.
Il y a match. Ah, je pense Bayrou, je lui mets 50 mètres.
sur un 50 mètres.
Sur un 50 mètres, effectivement. Alors, ça me fait plaisir d'être de retour avec la régie toujours au top. Merci à la régie d'être là ce soir. Des gros bisous à eux. On va donc parler athlétisme, mais avant, un peu d'autopromo. Autopromo! Alors, vous connaissez le rendez-vous en direct de l'émission le vendredi de 19h à 20h, mais aussi le mardi matin en rediff de 10h à 11h. Nous sommes bien revenus en direct depuis le 12 septembre. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tout retrouver en podcast. Si vous êtes coincé quelque part en train de faire des courses, en manif, voire sur le trône, nouvel emplacement de consultation des réseaux sociaux. Tu valides?
C'est vrai.
Voilà. Et il y a peut-être une analogie entre les réseaux sociaux et le trône.
Je suis pas spécialiste.
Je pense qu'il faudrait creuser. C'est pas grave, vous pouvez les trouver en replay sur la page de la radio. Tapez sur Google Aligre FM Podcast, cherchez l'émission Championne. D'ailleurs, vous avez plein d'autres émissions super sympas. L'huile sur le jeu, Cappuccino, Lusitania, Jazz Land, bien sûr, Fil des pages, Chute libre, j'en passe. D'ailleurs, on m'informe dans l'oreillette que les best-of 1 et 2 de la saison 1 sont bien en ligne. Ils ont été faits.
Ça y est,
c'est fait. Et bien sûr, à la fin de la semaine, il y aura l'émission de la semaine dernière avec l'agréable Camélia sur le surf. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Championne l'émission. T'as vu, la réclame est de plus en plus longue, hein, on a de plus en plus de trucs à dire, hein, c'est fou. Enfin, je rajoute des fausses pubs au milieu. Je pense que c'est ce que je vais faire la prochaine fois. Je vais commencer à mettre des fausses pubs. Alors, après un petit instant déjà, comment ça va cette semaine, Elodie? Les vacances, c'était comment? Contente d'être là.
Écoute, les vacances, j'ai pas eu de vacances.
Ben pourquoi?
Je suis pas partie cet été. J'avais des choses à faire ici, j'ai déménagé entre autres. Mmh. Donc non, je me suis reposée, mais je suis restée dans le coin.
Donc c'est toi qui fais transiter des chats sauvages de Slovénie à Marseille, c'est ça?
En go fast.
Chat fast. Remplis la bécane de chat et
exactement.
Ah, et bien entendu, avant de commencer, comme d'habitude, l'édito, merci à Sandrine d'avoir trié ses 9999 emails, dont 9998 spam. Alors c'est un message cette semaine de Airplane91. Je le cite, « Bonjour, j'ai refait un pseudo, car la semaine dernière, on a dit que j'étais une fake news, mais nous ne savions pas tout dit sur les avions. Êtes-vous au courant? Les avions, c'est dangereux. » Alors, merci pour ce message, Airplane91, mais selon les statistiques réelles, eh bien sachez que la probabilité d'un accident mortel en avion est de 0,1 pour 1 million de vols. Tandis que le risque dans un accident de voiture, vas-y, Elodie, vas-y.
Je sais pas,
Première question, beaucoup trop. 1 sur 95.
Ouais, j'allais dire 1 sur 100, tu vois.
Et voilà, selon les chiffres du National Safety Council américain du mois de janvier. Donc Airplane 91, you are a fake news comme la semaine dernière, mon ami. Eh oui. Par contre, il y a un peu plus d'un an, cette histoire est vraie, un vol de la Lufthansa. Déjà, ça rassure pas ouf. Un vol entre Francfort et Séville. Eh bien, pendant 10 minutes. Il est vrai que le pilote est parti aux toilettes faire la grosse commission. 10 bonnes minutes, un taco 3 viandes sauce biggie. Disons que le copilote, lui, qui allait bien, était dans le cockpit en attendant, puisqu'il faut toujours qu'il y ait un copilote quand même. Eh bien, est-ce la réalisation de la nomination de François Bayrou Premier ministre l'année dernière? Est-ce l'inflation sur le cours du kilo de pâte? Est-ce la photo des pieds de Patrick Sébastien? Mais en tout cas, elle s'est évanouie direct pendant 10 minutes. Du coup, effectivement, il est vrai, il n'y avait personne aux commandes de l'avion. Cette histoire est 100% vraie. Il n'y avait personne, exceptionnel. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Existe vraiment dans la vraie vie? C'est fou. Bon, après, 46% des hommes pensent, de manière consciente pouvoir faire atterrir un avion.
Ça, c'est dingue. Et je ne me remets toujours pas de cette nouvelle. Oui, vraiment. Ça fait des semaines qu'on en... Je ne me remets pas de cette nouvelle.
C'est fou, 46% quand même.
Quand même.
Mais qu'est-ce que c'est que ça, madame? C'est du misandre. Vous êtes misandre. Moi, je vous le dis. Ça va.
Les gars, atterrisser, pour le coup, c'est bien de le dire.
Non, écoute, moi, j'ai des chiffres, d'accord? C'est pas comme si former un pilote de ligne, ça coûtait 100 000 euros par pilote, d'abord. Hein, ok, parce que Roger, il peut le faire.
Bien sûr. Okay.
C'est pas comme si plusieurs années étaient nécessaires dans sa carrière de copilote avant de devenir pilote. Notamment une expérience minimum de 1500 heures de vol, ce qui veut dire 62 jours et demi en l'air. Pas en congé, en l'air.
En l'air.
Et dont 500 heures, ce qui fait 21 jours en opération multipilote. Eh ben oui, c'est vrai, ils peuvent pas atterrir. Parce que personne n'a ça dans sa vie à part un vrai pilote de ligne. Voilà. Mais il faut savoir aussi, en parlant de choses volantes, un homme qui fait atterrir un avion, c'est comme un canard de barbarie, c'est un vrai canard, voilà, qui s'appellerait Jimmy et il s'y mettrait à attaquer les gens en Floride. Est-ce que c'est possible d'après toi?
Non.
Eh bien si, c'est vrai. Au mois de juin en Floride, un canard nommé Jimmy, volatile, a attaqué plusieurs habitants de personnes âgées près d'un hôpital. Il en a envoyé un à l'hôpital.
Ah oui, quand même.
Ah, véridique. Il faut savoir que ce canard a depuis un surnom, Canard McGregor. Et apparemment, il est venu nettoyer la Floride. J'ai une théorie, il est anti-Trump. Voilà, je vois pas d'autre, pas d'autre chose. Et il faut savoir que c'est, selon les rumeurs, bien entendu, que c'est un agent caché de la CIA. D'accord ? La Canard Intelligence Agency. Okay.
Bien sûr.
Il semblerait qu'il ait des hauts faits d'armes complètement fous. Il est tellement dangereux qu'il aurait retrouvé Ornicard. Qu'on cherche encore aujourd'hui.
On cherche depuis exactement. Des décennies maintenant.
Il aurait, à ce qui paraît, tagué le mur du son. Il paraît aussi qu'il parle 8 langues, dont le chat, le dauphinois, mais surtout le braille. Oui, il le parle.
Il le parle.
Il le parle, bien sûr. Ce canard est un héros. Et son meilleur exploit, c'est d'avoir retrouvé la page 404, celle de l'écran bleu. Donc on embrasse ce canard. C'est le moment où vous applaudissez. Merci de m'avoir écouté. On repart sur le sport. Des gros bisous. Alors. Je vais dire quelque chose, dire bonjour dans un dialecte jamaïcain. Wagwan, man. Je te jure, ça... ou good morning. Il faut savoir qu'en Jamaïque, d'après toi, ils parlent quelle langue?
Je sais pas, honnêtement.
L'anglais.
Je sais pas. Ouais, parce que j'allais dire anglais pour moi.
Anglais et le créole jamaïcain, voilà. Alors d'où ça vient l'athlétisme, Mélodie? Vas-y, en 5 leçons, je t'écoute.
Bah, l'athlète, c'est pas anglais à la base, un truc comme ça? Je sais pas,
je pense. J'adore ces moments. C'est grec.
Ah bah oui, oui, suis-je bête? J'allais dire autre chose. Suis-je bête?
Je te donne un indice, Olympie.
Bah ouais. Mais c'est toi aussi, tu me poses des questions. Moi je suis pas prête, il fait chaud.
C'est le retour.
C'est le retour.
C'est la première de la saison 2 pour toi.
Ça fait 2 mois que je suis pas venue à la radio. Oh là là.
Eh bien l'athlétisme, effectivement, vient de, selon les traces, 776 année avant Jésus-Christ à Olympie. Alors, parmi les athlètes de l'Antiquité, on retient un certain... ça me tue quand j'ai des anecdotes comme ça. Un certain Léonidas de Rhodes qui remporte le stadion, qui est la course, en fait, à pied, et qui fait non pas 100 mètres, mais 192 mètres, parce que c'était la longueur du stade. Voilà.
Pratique.
Très simple. Voilà. Et il faut savoir qu'il l'a remporté 3 fois d'affilée. Et ça, c'est écrit en plus dans les annales de 164 avant Jésus-Christ. Autant dire que Léonidas a marqué son monde. Vous vous en rappellerez, bien sûr. Au programme antique, il y a course, évidemment à pied, mais aussi on a le lancer de disque, le javelot, le saut en longueur, entre autres. Le 100 mètres moderne, lui, par contre, apparaît à la naissance des Jeux Olympiques en 1896, les Jeux Olympiques modernes à Athènes, qui d'ailleurs ont été rénovés par Pierre de Coubertin.
Tout à fait.
Le célèbre esprit Pierre de Coubertin. Et déjà, je pose une première question, ma chère Élodie.
Oh là là.
La course à pied, t'en es où?
Moi, ouais. Je suis encore sur la ligne de départ.
Alors, est-ce que t'as déjà regardé un peu l'athlétisme à la télé? Je pense que oui, tu vois.
Ouais.
Est-ce que ça t'a marqué? Qu'est-ce que t'en
non,
penses? Vas-y,
c'est let's fou. Go. Sinon, c'est hyper impressionnant. Tu les vois courir à des vitesses ou sur des longueurs, même les 1500 mètres, les choses, ils tiennent des rythmes. Ouais. Mais moi, j'arrive pas à le tenir sur 3 mètres déjà. Moi, il me faut 8 jours pour finir la course et 3 infarctus. Donc, non, la course, c'est pas fait pour moi. J'ai zéro cardio, j'ai jamais eu de cardio.
Mais du coup, extrêmement impressionnant. On peut pas dire que tu rates jamais.
Oui.
D'ailleurs, là, j'ai le championnat du monde actuellement.
Oui.
Il y a ta petite protégée Sydney Loughlin,
oui,
en 400 mètres.
Oui.
Qui est arrivée en finale. Elle a gagné ou pas, du coup?
Oui, elle a gagné.
Elle a gagné?
Ouais, elle a gagné.
Médaille d'or?
Ouais.
Ah, elle est trop forte cette fille. Et oui, on a fait un épisode sur Cité de Loughlin, bien sûr, sur la course du 400 mètres et tout ça. Et bien sûr, parce qu'elle saute des haies. Alors, moi, le 100 mètres, c'est la discipline reine. Et pourquoi ? Je vais en parler après, parce qu'il y a une histoire autour du fait que ce soit le 100 mètres qui soit discipline reine. Mais effectivement, il y a toute cette fascination autour du fait que est-ce que l'homme est plus rapide qu'un cheval ? Vous verrez pour tout à l'heure pourquoi je dis ça.
46% des hommes pensent que oui.
C'est vrai. Alors, tu m'as terminé, mais c'est vraiment très drôle. Du coup, alors, les Jeux Olympiques 1896, qui ont eu lieu le 6 avril, il faut savoir, et non pas en été comme d'habitude, ont réuni pas tant que ça de pays, seulement 14, essentiellement européens, dont la France, mais on a eu le Chili, les États-Unis pour le continent américain, l'Australie pour l'Océanie, représentés par 240 athlètes qui participent à cette édition inaugurale des Jeux Olympiques modernes. Les 9 sports au programme sont l'athlétisme, le cyclisme, l'escrime, l'haltérophilie, la lutte, la natation, le tennis, le tir et la gymnastique. Aujourd'hui, on a rajouté le golf. Voilà. Le golf est un sport.
Ça, c'est un sport qui pourrait me... Tu vois,
ouais, pour toi, ça.
Au niveau du cardio, ça pourrait être bien pour moi.
On est bon. Mm. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à la cérémonie d'ouverture, à cette époque-là, à Athènes, la cérémonie d'ouverture a été jouée 2 fois, que les gens ont tellement acclamé le retour des Jeux que c'était vraiment une folie. Donc, Athènes était en feu. Mais pour les bonnes raisons.
Dans le bon sens du terme.
Voilà. La course du 100 mètres est celle qui ouvre en fait les Jeux à ce moment-là. Alors, étant donné qu'on n'avait pas assez d'athlètes à cette époque, on a fait 3 groupes, donc il y avait 3 médailles d'or. Et il faut savoir qu'à cette époque, les hommes étaient les seuls à participer aux Jeux Olympiques, puisque les Olympiades féminines ont été faites notamment par Alice Milia, quelques années plus tard, dans les années 20. Et les femmes entrent dans la course du 100 mètres à partir de 1928 au JO d'Amsterdam, les 30 et 31 juillet 1928. Il faut savoir que là, pour le coup, elle est remportée par l'américaine Betty Robinson. Il y avait 31 concurrentes qui représentaient 13 nations qui participent à l'épreuve et qui se déroulent la première fois. Et il faut savoir qu'elle est descendue sous les 12 secondes. 100 mètres, 12 secondes, ce qui est exceptionnel. En parlant de world record... Est-ce que tu sais le record du monde féminin ou masculin ? Alors masculin, je pense que tu sais qui le détient.
Masculin, c'est encore Usain Bolt.
Qui est de nationalité ?
Jamaïcaine.
Yes !
Bien sûr.
Là, il y a un fil rouge, mesdames et messieurs, vous avez vu ça un peu, on est des professionnels. Maman, extraordinaire.
Les écoles de journalisme, en sûr.
Ou en infarctus, ça dépend.
Sûr, on sait pas.
Voilà. Alors effectivement, c'est le boss du record masculin. C'est 9 secondes 58 en 37,58 km/h, le 16 août 2009 au championnat du monde de Berlin. Et pour les filles, et c'est normal que tu saches pas parce qu'on en parle jamais.
Non, c'est... je vais regarder, je l'ai pas noté. 10 secondes et quelques, je crois, 50...
Pas 10 secondes 49, bravo,
voilà.
10 secondes 49, le 16 juillet 1988, pendant les sélections olympiques à Indianapolis, elle est US, c'est Florence Griffith Joyner, qui est aussi une pointure de la discipline. Donc, il y a quand même une seconde de différence, certes, mais on s'en fiche, nous on est là pour parler des filles. 10 secondes 49, jamais je l'ai fait de ma vie, que ce soit
non,
clair.
Clairement pas, non.
Donc elle est vraiment au-delà du truc. Alors évidemment, le sprint féminin, depuis 2007, il y a énormément de jeunes filles jamaïcaines qui ont pris la relève de Merlin Otte, c'est fou. Veronica Campbell notamment, Shelly-Ann Fraser en 2008-2009. Elles sont aussi sur un podium lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Le podium du 100 mètres est constitué intégralement d'athlètes jamaïcaines. C'est jamais arrivé. Même les Ricains ne l'ont pas fait.
Non, même les Américaines ne l'ont pas fait. Ouais.
Et ça, c'est beau. C'est extraordinaire.
C'est une belle image, ouais.
Ouais, franchement, j'ai trouvé ça génial. Donc, évidemment, il y a Shelly-Ann Fraser, devenue championne olympique avec son temps de 10,78, devançant ses compatriotes Sharon Simpson et Karen Stewart. Et effectivement, dans la seconde partie, on parle de Merlin Otte, parce que pas de Merlin Otte, pas cet engouement, en fait, pour les filles à aller courir et cette possibilité de se dire « c'est possible de gagner ». Ça, c'est assez fou. Évidemment, il y a une fascination pour la vitesse. Donc, évidemment, j'ai des anecdotes sur le sujet. Voilà, il faut le dire. Donc, il faut savoir qu'il y a un homme que j'adore qui, à Berlin, et l'histoire est folle, puisqu'on est en 1936, on est à Berlin dans un autre contexte que 2009 avec Usain Bolt. Petit moustachu, un peu énervé, voilà, de ce côté-là.
Et on a légèrement susceptible.
Légèrement susceptible, bien sûr. Et évidemment, il a un projet. Il pense qu'une certaine catégorie d'humains peuvent gagner tout. Hein, d'accord. Et là, il se fait devancer puisque le 100 mètres, le 200 mètres sont gagnés par Jesse Owen, un Afro-Américain, qui sera célèbre, qui pour moi est un héros. Il n'y a rien à dire. Le type est extraordinaire. Mais il faut savoir que comme c'est la ségrégation et que notre ami Jesse Owen, il vit aux États-Unis, le pays de la liberté à Skip, il faut savoir qu'après ses médailles, puisqu'il aura 4 médailles d'or, eh ben, il va avoir du mal à manger. Il citera lui-même, 4 médailles d'or, ça ne fait pas manger. Et du coup, et je te jure c'est vrai, ils vont faire un truc que je trouve qui est inhumain, et pourtant c'est dans notre histoire de l'humanité, c'est lui qui court contre des chevaux, et il gagne. Parce qu'on ne veut pas le laisser courir avec d'autres gars. avec d'autres athlètes. Du coup, bah, pour gagner des thunes, il gagne des 2000 dollars qui sont énormes pour l'époque, parce qu'on est quand même dans les années 40-50. Mais du coup, il est obligé de courir contre des chevaux. Et il a même une technique. Il sait que si le cheval est effrayé, il a de l'avance. Il sait que si le cheval n'est pas effrayé, il doit partir plus vite. C'est un délire. Donc Jesse Owen, ma plus grande star préférée contre le fascisme, a couru contre des chevaux et a gagné. Il faut savoir aussi qu'on a un magnifique vidéo de Usain Bolt contre un tuk-tuk à Lima, au Pérou. Usain Bolt a gagné.
Très visible quand même.
Et après, parce qu'on est français, et faut le dire, on a quand même des idées de merde. Alors tu remarqueras que toutes les idées de faire courir des athlètes avec des animaux, c'est que des hommes. Ça rappelle quelque chose que tu as déjà dit dans une émission, donc je te laisse le redire.
Je sais plus comment j'avais sorti cette phrase, mais il n'y a que des hommes pour faire des choses aussi stupides.
Voilà, merci, c'est voilà. Bien dit.
Je ne sais plus les mots que j'avais utilisés, mais c'était quelque chose comme ça.
Eh bien, sache qu'en 1990, à l'hippodrome de Saint-Cloud, le grand Japelou, tu sais, le cheval là, de Pierre Durand, là, il a fait un film dessus, Guillaume Canet, eh ben, il a couru contre le français le plus rapide, Daniel Sangouma. Je te jure, c'est vrai. Ils se sont dit, ouais, on va faire un truc, je vais courir contre ton cheval et tout. Ils l'ont vraiment fait. C'est passé dans le 20h, il y a eu des caméras, il y a eu un dispositif. Et il faut savoir que le Daniel a perdu, le cheval était plus rapide. Et mauvais perdant a dit, ouais, mais j'ai couru sur une pelouse. Mais qui t'a demandé de courir contre un cheval? Moi, j'aimerais savoir.
Même dans l'eau, il marche, il gagne le cheval.
Je ne comprends pas le principe. Bref.
Bien sûr, c'est la faute de
Alors, si vous voulez faire de l'athlétisme, bien sûr, en France, il y a la Fédération Française de l'Athlétisme qui compte combien de licenciés?
Oh là là.
Allez, c'est même grand-maman, j'adore. Sachez, mesdames et messieurs, si vous bonnez pour la première fois, je pose des questions comme le nombre de licenciés. Elodie doit trouver, c'est trop beau. Allez, vas-y.
J'ai systématiquement faux.
Oui, voilà.
Allez, on se concentre. Moi, je dirais 100 000.
320 000 licenciés, bien sûr, et bientôt 330 000 selon les chiffres de avril. Ça devrait être cet été. Bravo. Combien de clubs? 320 000, vas-y.
Bah oui, c'est pour ça, je calculais vite. Je sais pas, 3 000.
2 587, t'étais pas loin, bravo. Ah, cette nouvelle saison, ça va bien. Alors, si vous comptez faire du sport, sachez qu'une licence, selon votre niveau, c'est entre 150 et 300 euros l'année. Pour les chaussures, vous allez être entre 45 et 160 euros. Oui, les chaussures coûtent cher. La tenue d'entraînement, on est aux alentours de 25 à 125 euros. Mais surtout, le truc le plus important, si vous êtes une fille, c'est important, il faut vous payer votre soutif de sport. Et là, le prix est indécent. Ça va de 18 à 90 euros.
Ça coûte super cher.
Ouais. On va en parler en deuxième partie, c'est n'importe quoi, je crois. Je piche pas. Mesdames et messieurs, on va donc prendre une pause sur l'athlétisme. On va parler de Merlin Auté dans quelques instants. C'est le moment du jingle de la musique. Mesdames et messieurs, maestro, musique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
See you.
Et bonjour à nouveau auditrices, auditeurs, je suis toujours Cad, l'homme du 92, nous sommes toujours sur Allegra FM 93.1, vous êtes bien dans l'émission championne qui traite du sport féminin. On vient d'écouter Diana King, jamaïcaine, sur le morceau Shy Guy de la BO du film Bad Boy avec Will Smith et Martin Lawrence, parce que pendant que vous n'étiez pas là, Elodie me disait « Mais je connais pas !» Mais quand même, c'est un
mais
classique.
Ça, c'est dans Bad Boys.
Mais oui, c'est le premier, 91.
Ah, ça fait très longtemps que je les ai pas vus.
Ou 93.
Parce que pour moi, Bad Boys, c'est Bad Boys, Bad Boys.
What you gonna do?
Voilà.
What you gonna do? What you come for you?
Voilà.
Ouais, mais non, mais
pour
c'est
moi,
ça
là. Que cette chanson.
Mais c'est ce morceau-là qui a fait toute la BO du film. Oh là 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 là.
Oh, ça va, 91. Ah, tu sais quel âge j'avais en 91?
T'étais pas né.
J'étais pas né.
Qu'est-ce que tu racontes? T'étais pas né. Moi, j'étais là. Et moi, je faisais Mercy, Mercy, Mercy. Et aujourd'hui, je suis Cad Rastafari Minima Animus, qui veut absolument dire plein de choses. Et on va demander à Elodie, l'acrobate des Carpates, la reine du triple sauvrier piqué, réception orteil gauche, ça va?
Ça va super.
Est-ce que tu viens d'enrichir ta culture pop?
Oui, j'aime beaucoup. Franchement, tu me redonneras le son.
Sans aucun problème, je te l'enverrai. Et nous sommes toujours en compagnie de la régie, toujours au top. Des bisous à la régie qui est là, derrière, cette magnifique plexiglas. On les voit, ils nous voient. On va parler de notre légende de la semaine, Merlin Nautet. Mais d'ailleurs, on va revenir sur cette histoire de 15, 20 euros, 90 euros le soutif.
Oui, ah ouais, ça coûte super cher.
Mais c'est un délire.
Et encore, y a des inégalités.
Oui, justement, c'est pour ça que je l'aborde.
Mais par exemple, si tu as une faible poitrine, effectivement, tu peux en prendre un à 20 balles, ça ira. Moi qui ai un peu plus de poitrine, je prends un truc à 20 balles, c'est comme si je mettais rien, c'est affreux, c'est douloureux et tout quand tu cours.
Bah, oui.
Donc moi je suis obligée de taper dans des dans la fourchette haute quoi.
Mais toi tu prends du 45-50 euros.
Ouais.
Oh là là.
Pour ça que je fais pas de sport.
Et en moto, t'as pas besoin?
Bah non.
Enfin, je sais pas, je pose la question.
Non,
je fais pas de moto.
Des sous-vêtements classiques. C'est du genre, sport, mais.
Je fais des sous-vêtements classiques.
Je suis pas. Non, mais je pars pas. Je suis pas sur un circuit. Quand je pars en circuit ou en grosse balade.
Ah, voilà.
Oui. Parce que c'est toujours mieux. Mais sinon, non, je suis en habit.
Parce que
civil,
va pas me faire croire que les filles qui font de la bécane, elles sont en soutif H&M.
Bah non.
C'est pas vrai.
Mais en habit civil pour aller travailler tous les jours, non, je. Non.
D'accord. Mais par contre, tu vois, je pensais pas que ce serait une charge aussi lourde pour, par exemple, une fille qui voudrait faire de l'athlé, de rajouter ça, tu vois.
Ah bah, c'est pas comme beaucoup de choses.
Bah oui, mais en fait, je viens de le découvrir.
Parce que là, on en parle pour l'athlé, mais on a déjà parlé de boxe,
bah
tu
oui.
vois, le MMA.
Oui, MMA, bah, exact, tout à fait.
Excuse-moi, mais il faut qu'elle se protège, hein.
Ah oui, oui, en plus, ça doit être embourré.
Bah ouais.
Ça se prenne des patates et des coups de genou.
Bah oui, ça fait mal, hein.
Voilà. Encore un truc que nous, on paye pas, mais personne nous a dit, Franchement, je tiens quand même à dire, je m'insurge, d'accord.
Non, mais voilà.
M'insurge
c'est
de cette
charge.
C'est
bien que ça t'étonne. C'est dommage, mais c'est bien que tu tiltes un peu.
Bah, merci, merci.
En tant qu'homme, je parle pas, en tant que toi.
Ah, mais oui, merci.
Personne.
En tant qu'être humain, ça passe, en tant qu'homme, c'est vrai, il vaut mieux que je m'étonne de plus de choses. Je vous le dis, messieurs. Alors, on va parler de Merlin Nautet, jamaïcaine, née à Hanovre le 10 mai 1960. Elle fut naturalisée en Slovénie en 2002, ça on va en parler après. Son surnom, c'est la reine de bronze. Et parce qu'elle a obtenu beaucoup de médailles de bronze. Voilà. Sa spécialité, c'est le 100 mètres, le 200 mètres, le relais 4x100 mètres sur lequel elle a excellé. Année d'activité, préparez-vous, accrochez-vous à vos dessous. 1980-2012. Ce qui veut dire 32 ans au plus haut niveau de sa catégorie et de son sport.
C'est plus que moi-même.
Bah, ce que j'allais dire, il y a des gens, ils ne font pas 32 ans. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'elle a couru plus longtemps que tu existes.
Oui.
C'est magnifique, je trouve ça fort. Alors, elle a même affronté Marie-Josée Pérec sur un 200 mètres extraordinaire lors d'Atlanta 1996, où Marie-Jo gagne son 200 mètres, sa médaille d'or en finale. Merlin Nautet a perdu, mais surtout, ce qui va lui rester, parce que c'était son prime en 1996, c'est qu'elle a été battue sur 100 mètres d'un millième de seconde par Gail Devers. Et ça, ça va lui rester dans la tête un bon moment.
Bah ça, tu l'as en travers de la gorge, ouais, un petit moment, ouais, je pense.
Ouais, un millième.
Le somme que tu dois avoir.
C'est une folie. Pour un millième de seconde, il faut savoir que c'est la légende maudite. Et effectivement, 32 ans sur le circuit pro, ce qui est fou. Et en 96, si je calcule bien, sachant qu'elle est née en 1980, elle avait déjà
16 ans.
Non, elle a commencé à courir en 1960. Non, pardon, en 80, elle est née en 60, autant pour moi.
Et... ouais, premier, bah, sa première grosse compétition, c'était en 1980, les JO.
Ouais, c'est ça. Ouais. Elle avait 17 ans.
Ouais.
Et pour le coup, pardon, comme elle est en 1960, son prime, elle avait déjà 36 ans. Mm. Et elle était déjà lunaire, quoi.
Ouais.
C'est une folie.
Là où beaucoup s'arrêtent, elle était à son prime.
Et pour parler de son palmarès hors norme, t'as des chiffres ou... Parce que moi, j'ai toutes les médailles, mais...
Moi, j'ai 9 médailles mondiales, quand même.
Ouais, bien joué.
7 en salle aussi. Ouais. Qu'il y a athlée en salle. T'as parlé du 100 mètres, 200 mètres, 4 fois, mais elle a aussi pas mal de récompenses sur le 60 mètres.
Oui, en salle, son 60 mètres de sprint. Ouais.
Qu'elle fait en... comme ça.
Ouais, ça, elle a des records de dingo.
Ouais, d'où. Elle a encore des records d'ailleurs en Jamaïque. Ouais.
En Jamaïque, elle a beaucoup de records, effectivement. Elle a 7 titres du monde en salle. Mm-hmm. Ça, c'est fou. 3 or, 2 argent, 2 bronze. Ouais. Pour les médailles olympiques, tu as totalement raison. Elle a 9 médailles olympiques, mais malheureusement, elle a 3 médailles d'argent et 6 de bronze.
Ouais.
C'est pour ça qu'on l'appelle la reine du bronze. Elle n'a jamais décroché l'or olympique malgré toutes ses participations aux JO. Et ça, c'est fou parce qu'elle va participer de... Si je ne dis pas de bêtises, de 1980-2012, ses derniers JO, c'est Athènes 2004. Et ses premiers, on est sur Moscou 1980. Mm. Voilà, donc je vous laisse faire. Hein. 1980-2004, 24 ans de JO.
Ouais. Ouais. Sans jamais une médaille d'or, ouais. C'est frustrant.
C'est assez frustrant, mais néanmoins, c'est quand même la preuve que l'abnégation. C'est-à-dire que la fille n'a jamais lâché. Ses derniers JO, ce sera Athènes 2004, effectivement, elle aura 44 ans. Plus de 30 ans de carrière. C'est assez fou. Donc, au cumulé, j'ai tout compté. Effectivement, elle a 9 médailles d'or, championnat du monde, etc. en salle. Elle a 10 médailles d'argent et 16 de bronze. Je voudrais le même palmarès.
Oui,
vraiment.
Je serais déjà très contente.
Aujourd'hui encore, il y a des athlètes qui n'ont pas ce palmarès et qui sans doute ne pourront jamais l'avoir.
Ouais.
Donc c'est vraiment une reine, rien à dire. Donc, ses adversaires marquants, Florence Griffith Joyner des USA, qui est la record woman du monde, effectivement, avec ses 10 secondes.
49.
Waouh ! C'est bien d'avoir une co-animatrice. Gail Devers, qui effectivement sur 100 mètres, lui prendra la médaille d'or à Atlanta. Marie Jo, aussi, sur le 200 mètres, parce qu'elle a fait beaucoup de 200 mètres aussi. Marion Jones dans les années 2000, qui est une athlète à qui j'ai beaucoup d'affection, mais pour ses histoires dopage, on lui a retiré tous ses titres. Un jour, il faudra qu'on en fasse une émission sur elle. C'est assez fou ce qui lui est arrivé. Être égérie de toute la planète et d'un coup la plus détestée du monde. Veronica Campbell-Brown et Shelley Ann Fraser, sur qui tu as une anecdote.
Oui.
Qui sont les nouvelles reines jamaïcaines qui lui ont succédé. Donc après Merlin Noté, vous avez, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, le trio jamaïcain sur le podium du 100 mètres, une folie. Et parmi elles, on a Shelley Ann Fraser. Je te laisse raconter cette anecdote.
Oui, on en parlait hors antenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'était au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, il y a une vidéo qui a tourné sur les courses... tu sais, les courses de maman à la fin de l'année scolaire en Jamaïque. Il y en avait une. Elle est partie comme une balle. Elle est arrivée tout devant.
Elle a laissé aucune chance.
Elle n'a même pas fait semblant.
Marguerite.
Elle n'a même pas attendu un peu. Genre, allez-y les filles, je vous rattrape.
Elle les a brûlées.
Elle est arrivée, bam. Les filles. Les images étaient folles. Et en fait, c'était elle.
Et ça fait le tour du monde. Comme quoi, quand tu es compétiteur...
Ah oui. C'est... Même à la retraite, même après tout.
Il y a
une ligne d'arrivée, tant pis.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et effectivement, s'il n'y avait pas Merlin Noté, dont on vous parle aujourd'hui, qui a commencé sa carrière à Moscou en 1980 et qui déjà prenait le bronze olympique, c'est un signe, sur 200 mètres, eh bien, il n'y aurait pas toutes ces grandes stars jamaïcaines qui ont suivi. Même Usain Bolt était fan de Merlin Noté, il faut le savoir.
Mm-hmm.
Pour ce qui est des JO, notre chère Merlin Noté malheureusement sera maudite. Los Angeles 84, elle finira 3e au 100 mètres, 3e au 200 mètres. À Séoul 88, elle sera 4e du 200 mètres. À Barcelone 92, elle sera 5e sur 100 mètres et 3e au 200 mètres. Encore une médaille de bronze. Atlanta, son moment, on l'a dit, 2e au 100 mètres pour un millième de seconde contre Gail Devers sur le 100 mètres. Seconde derrière Marie Jo, cocorico, au 200. Sydney. 3e sur 100 mètres, 3e sur 4 fois 100, encore des médailles de bronze. C'est extraordinaire. Elle ira à Athènes en 2004 sous pavillon slovène. Mais Rakuten, ce sera terminé, plus de podium à partir de là sur le reste de sa carrière jusqu'en 2012. Par contre, elle va professionnaliser énormément l'équipe nationale de Slovénie, pour le coup. Et ça, c'est un truc de malade, je trouve. Pour ce qui est effectivement de son record, elle a tout de même un 11 secondes 54 à Osaka au championnat du monde sur 100 mètres en 2007, alors qu'elle a 47 ans.
Et ouais.
Et là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi ?
Chapeau.
Ouais, chapeau bas, la dame. Hein, vraiment exceptionnel. Alors, toi, est-ce que tu connaissais Marlène Hottey, du coup ?
Pas du tout.
Jamais
honnêtement, non. Honnêtement, non, je connaissais pas du tout avant qu'on en parle pour en faire une émission. Très intéressante. Surtout bah, le fait qu'elle se rebelle contre...
Vas-y,
contre sa fédé, contre sa fédé,
ouais, on est en 2002, et sa fédé lui dit « Ah, t'es trop vieille parce que t'as 42 ans, faudrait que tu passes la main pour les, comme on dit, Fraser, tout ça, les jeunes. » Et vas-y, je te laisse raconter ce qui se passe.
Et bah, en grande athlète et en grande championne, elle a juste dit « Non.
» Je veux courir.
Non, je veux courir. Et du coup, elle a trouvé des alternatives. Bah, j'ai trouvé ça très malin, de sa part. Plutôt que de se battre... pendant peut-être des mois ou des années avant de pouvoir courir et perdre du temps, bah, elle a décidé de partir ailleurs. Tant pis.
C'est ça, elle a pris ses valises, elle a déménagé en Slovénie, elle s'est nationalisée, elle s'est naturalisée slovène pour pouvoir courir pour la Slovénie. Ouais. Ça a fait un tollé dans le monde du sport, puisque il y avait deux écoles, ceux qui disaient qu'effectivement, ah, gna gna gna, elle est trop vieille, palpati patata, et ceux qui disaient, bah en fait non, si elle a envie encore de courir et qu'elle peut se qualifier, si elle a la capacité de se qualifier.
Parce
en fait.
On a tendance à oublier qu'il y a des qualifications, c'est pas.
Voilà.
Tu te réveilles pas un matin en disant, tiens, je vais faire les JO.
Et moi je suis assez d'accord avec cette version, c'est pas la fédé de choisir, c'est tu fais les qualifs, si tu les passes, bah tu viens, si tu les passes pas, tu passes pas. En fait, c'est la loi du sport. Et du coup, elle a passé les qualifs, puisque en 2004, elle est allée à Athènes. Donc, c'est ça qu'elle pouvait se qualifier. Donc, il y a aussi le fait que la Jamaïque voulait pousser les jeunes talents et qu'elle, en tête, elle a été poussée par la sortie. Elle, encore une fois, abnégation, elle n'a pas lâché l'affaire, elle a changé de pays. Ouais. Et donc, elle courra pendant 10 ans, de 2002 à 2012, avec la Slovénie, où elle obtiendra au championnat du monde de Stuttgart, si je ne dis pas de bêtises, une médaille de bronze en 4x100. Ouais. Et aussi, bien sûr, la professionnalisation et l'augmentation des performances de l'équipe de Slovénie, ça c'est fort. En Jamaïque, bien sûr, elle porte un stade à son nom, c'est un symbole d'élégance, de persévérance. Il faut dire aussi que même si elle s'est naturalisée slovène et que ça avait choqué certains, bah, moi je soutiens, je vois pas pourquoi on lui interdit de courir si elle a les capacités de le faire. Voilà. C'est un modèle de résilience, une pionnière, une championne universelle, tout ce que vous voulez. Marlène Hottey, franchement, intéressez-vous à sa bio, c'est vraiment une reine sans couronne olympique, mais une grande madame. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, à 42 ans, se seraient dit « Je change de pays, je prends mes bagages, je m'en fiche, je vais à l'autre bout du monde et je vais montrer que je sais encore courir.
Ouais. »
Et ça, c'est assez fou, quoi, quand tu regardes. Et finalement, elle aura couru jusqu'à 52 ans.
C'est fou, hein.
C'est dingue. Moi, je trouve ça fou quand tu te dis « Ah, 52 ans, je cours. »
C'est vrai. Voilà. C'est dingue, hein, de continuer à avoir... un physique pour être toujours au plus haut niveau, parce que les Jeux Olympiques, c'est le plus haut niveau.
Voilà.
Alors que moi, à 30 ans, je suis partie à la pharmacie ce matin pour aller chercher une crème pour mon dos.
Bah, moi, il y a encore quelques mois, tu te rappelles, je m'étais bloqué le dos. Tu te rappelles, je marchais comme un.
C'est vrai.
Il a fallu que je reprenne le jogging, bien sûr,
tout à fait.
Pour que je récupère un peu de tonus.
Non, c'est en vrai, on rigole, mais c'est incroyable ce qu'elle a fait, sa carrière. Incroyable.
C'est dingue, c'est surtout, encore une fois, un peu comme Jeannie Longo, c'est quelqu'un qui a couru sur 4 décennies. En 2000, elle était là, dans les années 90, en 80, jusqu'à 2010. Voilà, sprinteuse sur 100 mètres sur moins de 11 secondes à chaque fois sur ces décennies-là. C'est rarissime. C'est un symbole. Voilà, moi, j'adore. Alors, moi, j'ai eu la chance de l'avoir courir à Atlanta, parce que je suis vieux. Mais effectivement, pour les jeunes, je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est le moment de mettre un jingle de la musique. Allez, et on va voir si tu connais ça aussi. Tiens, musique, s'il vous plaît.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Mesdames et messieurs, rebonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours auditeurs auditrices sur 93.1. Je suis toujours Cad, l'homme du 92, c'est bien dans l'émission championne. On vient d'écouter Jimmy Cliff, I can see clearly now. Maintenant, je peux... Comment on le dit en français, hein? I can see clearly now.
Pourquoi tu me poses des questions?
Ben, ça veut dire je peux voir clair maintenant.
Mais est-ce que j'ai une tête à parler anglais?
Oui, t'as une tête à parler anglais.
Mais non, moi si, je me suis arrêtée si. À Brian is in the kitchen.
Elodie's in the kitchen, bien sûr.
Voilà, tout simplement.
Alors pour m'accompagner, vous l'entendez, c'est toujours Elodie, elle est là. Jamais de sobriquet pour la troisième partie, c'est important. Bien sûr, la régie en place, on leur fait des bisous. Maintenant, nous allons parler de manière libre de la naturalisation dans le sport et des apatrides au JO. Quel mot apatride, bien sûr, ma chère Elodie. Que veut dire apatride, Elodie, d'ailleurs, tu vois?
Bah, sans patrie.
Voilà. Oh, voilà. Bravo, extraordinaire. Logique. Alors, il faut savoir que le statut des sportifs qui sont apatrides doivent défiler sous la bannière olympique, sont placés juste avant la délégation. Il faut savoir qu'au JO Olympique 2024, ils étaient présents. C'est ceux que vous voyez qui ont un drapeau avec les anneaux olympiques et qui, en fait, vont regrouper plein de nationalités différentes. Et ce sont des gens qui ne peuvent pas courir sous leur drapeau pour plusieurs raisons. La guerre, réfugiés politiques... etc. Donc on a des Russes par exemple qui ont préféré courir sous le drapeau olympique que sous les couleurs de la Russie par exemple, à cause de la guerre en Ukraine. On en a d'autres aussi pour des raisons particulières. Et on a une boxeuse camerounaise, Cindy Ngamba, à 25 ans, première réfugiée olympique à atteindre un tel stade de la compétition, c'est-à-dire la finale, tout sport confondu. Elle s'est inclinée face à la panaméenne Athéna Bibershi-Bilon en demi-finale des moins de 75 kilos sur décision partagée des juges et c'est la première médaille olympique pour l'équipe olympique des réfugiés. Alors c'est une médaille de bronze, mais c'est quand même pas mal.
Bah, c'est très symbolique.
C'est hyper symbolique, je trouve ça génial. Il faut savoir que ça existe depuis les Jeux de Rio.
C'est assez récent.
Ouais. Et ils étaient sur leur petite péniche, je me rappelle, pendant les JO. Là.
Oui.
C'était trop mignon. C'était habillé tout en blanc.
Si oui, ils avaient un uniforme tout blanc.
Et en fait, avant les JO de Paris, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait une équipe comme ça.
Ah ouais? Moi, ça m'avait... je ne sais plus c'était auquel, mais ça m'avait tilté et je m'étais posé la question, c'est qui eux?
Et qui êtes-vous, monsieur, madame? C'est vu de la lumière.
Et du coup, si, je connaissais. Donc, quand je les ai vus sur petite péniche, je savais déjà qui c'était.
Moi, je ne savais pas du tout. Je trouve ça génial, en fait. Mais après, c'est là où tu vois la beauté du sport, de pouvoir, malgré le contexte politique ou des parcours personnels, de pouvoir quand même avoir une équipe pour présenter ton sport, en fait. C'est là où, en fait, les valeurs du sport sont les meilleures, loin des valeurs du football et de l'argent. Voilà, dédicace, bien sûr. Alors, évidemment, on va parler de sportives féminines marquantes qui ont changé de nationalité pour plusieurs raisons. Alors, évidemment, on a parlé de Merlène Otte, voilà, devenue slovène en 2002, puisque la fédération avait décidé de l'écarter et qu'elle a dit non. Voilà, non. Moi, j'ai dans ma besace Martina Navratilova, qui donnera, bien sûr, un écho aux personnes nées en 1980. Donc, c'est du tennis, il faut le savoir. Elle est née à Prague. Il faut savoir qu'à cette époque, à Prague, où elle est née dans les années 60, le régime tchécoslovaque était un peu répressif, un peu URSS dans l'âme. Et c'était pendant la guerre froide. Donc en fait, elle part aux USA à 18 ans, elle demande l'asile politique. Il faut savoir qu'en 1981, elle devra prendre la nationalité américaine puisqu'elle va être déchue de sa nationalité. C'est assez ouf.
C'est ouf.
C'est-à-dire que le pays va dire, toi, tu t'es barré, t'as demandé la nationalité américaine, t'es plus... ton pays est fini. Mm. Tu vois. J'imagine, imaginez, vous êtes en France, il y a par exemple 2027, c'est ça? 2027, un certain parti très, très à droite prend le pouvoir. Vous vous dites, ah, je demande l'asile, je m'en vais. Vous quittez le pays, vous demandez la nationalité belge. Bon, comme quoi, on ne peut pas aller très très loin, nous, on est français, on n'a pas beaucoup de moyens. Et effectivement, là, on vous dit, bah voilà, vous n'êtes plus français. Mais du coup, comme vous êtes champion de votre sport, vous allez quand même concourir pour la Belgique. Mm. Et ça, c'est beau. Il faut savoir que Navratilova, c'est une pointure en termes de tennis. Son 18 titres du Grand Chelem, en simple, voilà.
Voilà, rien d'autre, suivant.
Voilà. C'est vraiment une dinguerie intersidérale, cette dame. Je l'adore, elle jouait vraiment bien. C'est aussi une icône militante LGBTQIA+, ça aussi, c'est important de le dire. Il faut savoir qu'elle va jouer de 1973 à 2006, donc de 17 ans à 50 ans.
C'est fou.
Après, quand elle va passer la quarantaine, elle fait, tu sais, les tournois des seniors, là.
Oui, oui, oui.
Voilà, un peu les masters seniors pour être chill et tout. Mais elle va quand même être là. Elle est Hall of Fame du tennis. Mm-hmm. Et pour la petite histoire, ce qui est très beau, c'est qu'en janvier 2008, 33 années après avoir été déchue de sa nationalité, la République tchèque va lui dire « Allez, on te rend ta nationalité. »
T'es plus puni.
Mais c'est tellement symbolique, je trouve ça génial en fait. C'est hyper beau. Et donc oui, elle a fui son pays à cause du régime, elle a continué à jouer au tennis et aujourd'hui c'est une icône mondiale et si vous ne connaissez pas Martina Navratilova, n'hésitez pas à regarder un petit peu quelques vidéos, c'est une tueuse. Est-ce que tu as quelqu'un sous la main ?
Non.
Non ?
Si j'en ai.
Non, je suis venu pour les chips.
Je suis venu pour l'ambiance en fait.
Vas-y, est-ce que tu as quelqu'un sous la main ?
Alors, attendez, tu me prends toujours des pourvus.
C'est le but.
Mais du coup, j'ai plus moi.
Parce que moi, j'ai. De
toute vas-y alors.
Ah bon, d'accord, j'envoie le suivant. Alors, nous allons parler de Oksana Chusovitina. Ah, déjà, le nom, il va vous dire rien du tout. Parce qu'en fait, son histoire est folle et pourtant, c'est une histoire complètement dingue. Donc, c'est une jeune fille qui fait de la gymnastique artistique. Elle a représenté plusieurs naciers. Ah oui, c'est vrai qu'à chaque émission, il faut que je fasse un blablabla, et après
oui,
ça revient,
sinon,
tu vois.
Bah oui,
vrai,
sinon, c'est pas... fois.
Donc plusieurs nations au gré des bouleversements politiques, notamment la fin de l'URSS au passage. Donc en résumé, avant 1992, elle représente l'URSS en gymnastique. Là, jusque-là, vous suivez. Ensuite, l'URSS tombe. Et bah, du coup, depuis 89, elle représente la CEI, la Russie unifiée. Puis, en 93, l'Ouzbékistan, puisqu'elle est originaire de cette partie du monde. Puis, de 2006 à 2013, elle devient allemande. Et enfin, en 2013, elle retourne en Ouzbékistan. Alors, vous allez me demander pourquoi ? Déjà, c'est un symbole de longévité. Elle a participé à plusieurs JO, notamment Barcelone, Atlanta, Pékin, Londres, Rio, ça en fait 5, c'est beaucoup. Elle a une médaille d'or, une médaille d'argent en Olympique. Elle a 11 médailles au championnat d'Europe, 4 médailles du championnat d'Europe sous le drapeau allemand notamment, une en or, deux argent, une bronze. Mais surtout, l'histoire est la suivante. Alors, après les mouvements qu'il y a eu entre l'URSS qui est tombée et ses changements et l'Ouzbékistan avec leur indépendance, son enfant est tombé malade. Et donc, du coup, pour les soins, elle a dû partir en Allemagne. Elle a dû être auprès de son enfant pendant toute cette période-là, donc de 2006 à 2013. Et donc, pour continuer son sport, les Allemands l'ont naturalisé. Elle a donc représenté l'Allemagne. Et en fin de carrière, elle a retrouvé sa nationalité ouzbek. Et ça, je trouve ça assez fou. Voilà, grande dame. Pour son fils, elle a traversé le monde. Elle a gagné des médailles. Je trouve ça extraordinaire. Un avis ?
Non, c'est fou. C'est fou. En fait, moi, ce genre de parcours, parce que c'est des décisions qui sont quand même importantes dans une vie, dans une carrière et tout. Donc moi, ça force le respect de se dire je veux tellement faire ce que j'aime, je veux tellement faire ce pour quoi je suis douée que je renonce entre guillemets à une partie de ma vie, au moins pour quelques années, avec un peu de chance, sinon pour le reste de ma vie, pour continuer à faire ce que j'aime. C'est fou.
Mais c'est surtout que tu renonces à ta nationalité, toi, tes origines, ton chez-toi. C'est ça que je trouve fou.
Ton identité, presque.
C'est complètement ça, en fait. Une partie de ton identité, puisque tu deviens, un expat, comme on aime dire en France.
Oui.
Voyez, vous aussi, si vous venez d'un pays étranger et que vous êtes en France, vous êtes des expats, je vous le dis. Voilà. Hein, n'écoutez pas la télé, n'écoutez pas ces news. Non, c'est vrai que ça, c'est un truc de fou. Est-ce que toi, tu serais capable de faire ça ? Parce que là, en fait, on a deux cas. On a le cas, effectivement, comme tu dis, Merlène Otte, qui, elle, part pour son sport. On a Navratilova, qui, elle, part pour réfugié politique, problème dans son pays. Et là, on a carrément une gymnaste ouzbek, Chusovitina, qui, elle, part parce qu'en fait, son fils est malade. Et le seul moyen de le soigner, c'est de changer de pays, en fait. Donc, du coup, toi, tu partirais pourquoi ?
J'ai pas d'enfant.
Allez, t'es motard professionnel. T'es sur les circuits, t'es en GP1, bam. Vas-y.
J'ai pas d'enfant, mais pour mon enfant, je pense que je le ferais sans hésiter une seule seconde.
Pour ton chat. Attention à ta réponse. tous les amis des chats attendent cette réponse.
Pour ma petite poupou.
Tu le ferais ?
Oui.
Voilà, merci. C'est bon.
Mais
pour la famille en général, je pense que
sans hésiter. Pour la
famille,
sans hésiter, je pense.
Ça, c'est... Et puis aussi, moi j'avoue que le réfugié politique, moi ça me parle.
C'est-à-dire... Et puis réfugié politique, oui bien sûr. Ouais, après souvent, entre guillemets, ils n'ont pas le choix. C'est soit ils restent.
C'est ça. Soit ils subissent en fait.
Ils subissent, soit ils essayent de trouver entre guillemets mieux ailleurs ou de se sortir d'une situation compliquée quoi.
Non, c'est vrai que c'est des symboles. Après, pour le coup, il y a aussi un truc qui est important, c'est que quand tu changes de nationalité, je trouve que les filles, parce que j'ai regardé un peu leur parcours, sont plus fait massacrer par la presse locale que si c'était des mecs. Tu vois, quand les mecs changent, c'est un peu, oui, il a changé, mais oh, tu comprends, c'est sa carrière,
ouais, bah,
c'est les sponsors,
oui,
c'est un meilleur championnat. Alors, on a le cas, par exemple, je prends l'analogie du foot, souvent c'est le cas. Vous avez des binationaux, en fait, dans le football. Les filles aussi, c'est le cas. Vous avez des parents d'une nationalité externe, et puis leur équipe n'est pas forcément meilleure que la nôtre. Je donne un exemple, voilà, vous êtes luxembourgeois, et vous avez le choix entre la sélection luxembourgeoise ou française, et on sait que nous, on est fort dans le sport, quasiment dans les sports. Et la question se pose. Et souvent, quand c'est un gars, on va dire « Ouais, mais il a raison, parce que la France, c'est mieux. Hein, il peut faire le championnat du monde, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, blablabla. » Alors quand c'est une fille, on est un peu en mode « Ah, elle a trahi son pays. » Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Oui, non, mais ouais, complètement. Complètement, c'est souvent les mêmes discours, en fait. Comme tu dis, quand c'est un homme, il pense à sa carrière, c'est ce qui est de mieux pour lui.
Oui. Puis ça va nous faire du bien, nous, la France.
Voilà, tant mieux pour nous.
Voilà, exactement.
Donc, alors que pour une femme, ouais, c'est malheureusement souvent des discours qui sont bien différents.
Ouais. Mm. Et ça, en fait, je trouve que c'est hyper injuste.
Ouais.
De partir sur une histoire de fidélité, etc., alors que derrière, il y a des enjeux un peu différents. Comme on a dit, un réfugié politique, une fédération qui ne veut plus te faire courir ou qui essaye politiquement de te tuer, ou tout simplement un truc extra-personnel comme une maladie d'un membre de ta famille, et tu sais que, je sais pas, je dis une bêtise, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut soigner telle maladie ou qu'en France, bah, en fait, tu y vas, quoi. Mmh. Parce que la famille, c'est le plus important. J'en ai une autre.
Moi j'en ai une aussi.
Ah vas-y.
J'ai retrouvé ma note.
Vas-y, je t'écoute.
Parce qu'on a parlé de pas mal de sujets, que ce soit des conflits internationaux, des conflits avec les fédérations, etc. Ouais. Moi j'en ai un.
Vas-y.
C'est Becky Hammon.
Ah purée, je l'avais, mais vas-y.
Tu l'avais.
Ah mais vas-y, c'est bon, vas-y, envoie Becky.
Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'histoire. j'ai bien aimé l'histoire parce que pour une fois c'est un peu inversé. C'est une Américaine qui décide de partir en Russie.
Et croyez-moi, c'est une folie, ça.
C'est fou. J'ai vu ça, j'étais en mode, attends, j'ai mal lu, parce que normalement, c'est l'inverse. C'est, en général, ils veulent tous partir aux États-Unis. Bah, pour les raisons que tu as dit, souvent, c'est des meilleurs athlètes, des meilleures infrastructures, des meilleurs championnats, etc. Non, elle n'arrivait pas à se qualifier pour l'équipe, parce que c'est une joueuse de basket, je ne l'ai pas dit.
Exactement, joueuse de basket.
Elle n'arrivait pas à se qualifier dans l'équipe nationale.
Des USA.
Du coup, elle a décidé de partir en Russie. Elle a eu une offre de la Russie, donc elle est partie en Russie. Business is business, hein, clairement.
Ah bah direct. Elle jouait en club là-bas.
Et elle jouait.
Elle s'est naturalisée
pour pouvoir jouer dans la sélection nationale.
Et c'est d'ailleurs, faut savoir qu'elle a joué de 2008 à 2012 là-bas. Et en 2008 à Pékin, elle gagne la médaille de bronze avec les Russes. C'est pas rien.
C'est-à-dire
qu'elle est venue, elle a gagné la médaille de bronze olympique. Hop. C'est assez fou. Et elle est quatrième au JO de Londres 2012, ce qui est pas mal, toujours avec la Russie. Et elle prend une médaille d'argent en 2009 au championnat d'Europe de Lettonie. Paris gagnant.
Ouais, clairement. C'est vraiment la phrase, Paris gagnant.
Et il faut savoir aussi qu'elle a un record. Le 5 août 2014, elle est nommée entraîneur adjoint des Spurs de San Antonio, qui est une des plus grandes franchises de NBA, qui est donc le basket US le plus important. Le patron de cette équipe, c'est Greg Popovich. Il y a peut-être un lien avec le fait qu'elle soit russe, je ne sais
pas. Peut-être.
Qui est un entraîneur légendaire. Et Greg Popovich, en 2014, lui dit « Tu vas être l'entraîneuse adjoint. » C'est la première fois qu'une femme est entraîneuse adjointe d'une équipe NBA. Alors, pour ceux qui voudraient savoir ce qu'est les Spurs de San Antonio, l'équipe de Tony Parker ou l'équipe actuelle de Victor Wembanyama.
Le seul et l'unique.
Oui, Wemby, comme on dit dans le métier.
Wemby. Pour les intimes.
Et ça, c'est. Elle a gardé la double nationalité, si tu veux savoir.
Ah ouais.
Et moi, je trouve cette histoire aussi complètement.
En même temps, Enfin, c'est logique pour le coup. Elle a fait sa carrière en Russie. Elle a eu des médailles qu'elle n'aurait du coup jamais eues.
Jamais.
Avec les États-Unis. Donc non. Je trouve ça bien en vrai.
Non, c'est pareil, je l'avais, c'est vraiment un bon truc.
Je pense que c'est un vrai pari qu'elle a fait. Hein. Parce que les États-Unis, en termes de basket, de surcroît, elle a fait un vrai pari.
Bah, le pari surtout qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est fait défoncer par la presse américaine.
Non, tu m'étonnes.
Il faut savoir que.
En plus, aux États-Unis, c'est vraiment patrie avant tout.
USA.
C'est très bien, mais ils en font légèrement trop.
Ah, c'est légèrement un peu trop. Non, complètement. Mais surtout qu'en fait, pour les plus jeunes qui nous écoutent, vous avez peut-être oublié ce temps-là, mais il faut le regarder dans les livres d'histoire, mais il y a eu la guerre froide. C'est-à-dire que depuis les années 50 jusqu'à 1989 et la chute de Berlin, donc pendant presque 50 ans, les États-Unis avaient comme adversaire idéologique dans le monde l'URSS.
C'était
l'ennemi numéro un.
Le pire ennemi.
Ça c'est un petit peu, c'est un petit peu devenu différent des années 90 et aujourd'hui malheureusement on est encore un peu sur de la géopolitique où on s'affronte, mais c'est plus la Chine qui est devenue l'ennemi des États-Unis en vrai.
Ça redevient un petit peu tendu, mais pas comme à l'époque. Ah,
mais à l'époque, sachez que quand elle dit je vais devenir russe, il y a des papis craqués. Hein.
Il y a des poubelles qui ont cramé. Hein.
Ah bah direct. Hein. Quoi ? Elle préfère la Russie que nous, notre pays de la liberté.
C'est pour ça, c'était un vrai pari. Hein, parce que de tous les pays...
Nous en plus, on a un vrai pays. Quand Jesse Owen gagne la médaille d'or devant le petit moustachu là, et qui est contre le fascisme, après on fait le courir contre des chevaux. Nous, on est très ouverts, madame.
Réel, ouais, en plus. Non, mais faire les États-Unis, quoi.
Toujours dans l'excès le plus total, j'ai envie de dire. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la base. Bon, là, on arrive sur la fin de l'émission, tranquillement. Voilà, on se pose. Et plus, monsieur, attendez, 57, nous rendons l'antenne. Voilà. Donc, du coup, alors, est-ce que...
Qu'est-ce que tu as retenu de cette émission?
Eh ben, moi, merci. Merci de me poser la question.
Bah oui, c'est une question... Je vais commencer à préparer des questions.
Ouais, prépare des questions.
Bien
un peu,
piège.
Tu peux. Est-ce que tu préfères la mousse au chocolat ou la moussaka, par exemple?
Non, ça, c'est trop ton domaine, la bouffe. Je te fais sur des domaines que tu ne maîtrises pas. Genre, combien coûte un fer à friser?
Waouh, attends, j'essaye. Essayez chez vous, mesdames et messieurs. Attention, la question est là. Un fer à friser, je dirais un babilis... 49,95€.
Le mec est né dans les années 80.
Merci.
Babilis.
49,95€
c'est beaucoup plus cher que
quoi,
ça.
Quoi, c'est combien?
Ouais. Bah, si tu veux vraiment haute qualité, bonne marque et tout, des Shark ou des Dyson.
Ouais. Dyson, ils font ça?
Ouais.
Parce qu'ils peuvent aspirer mes cheveux, maintenant j'en ai plus beaucoup. Mais
ouais, Dyson, c'est plus des fers à boucler comme à l'époque. Maintenant, c'est des technologies à base de souffle et tout. Mais un Dyson, ça coûte entre 4 et 500€.
What the... Quoi?
Mais ouais.
Quoi ?
C'est bientôt mon anniversaire, je dis ça, je dis rien.
On va faire une cagnotte, litchi.
Litchi.
Vous pouvez donner à partir de 50 centimes. Waouh ! Ah oui, quand même.
Ouais, après, Dyson, c'est vraiment les plus chers. Mais ouais, il faut compter entre minimum, en moyenne, à peu près 150, entre 150 et 250 euros, si tu veux vraiment quelque chose qui tienne dans le temps. Et
donc, n'hésitez pas à devenir sportif professionnel, notamment dans l'athlétisme, pour avoir le budget, pour vous acheter des fers à
lisser. Pour acheter des Dyson.
Alors, moi, ce que j'ai retenu de cette émission, comme dame, Marlène Lotté, moi, je l'ai vu courir, donc j'ai kiffé, mais j'ignorais qu'elle avait changé de nationalité, donc carrément renoncé à ses origines, déménagé, parce qu'on lui avait dit non, et que l'abnégation, voilà. J'ignorais aussi son palmarès, moi, j'ai toujours vu comme une légende, mais je savais pas qu'en fait, elle avait jamais gagné l'or olympique.
Ouais.
Donc vraiment, pour moi, ça a relevé encore le niveau. Et le fait que ce soit une icône, bah, pas de Merlin Noté, pas de Fraser, pas de Usain Bolt, pas la Jamaïque au top du top de l'athlétisme. Donc c'est une grande dame du sport. Donc ça, je suis très content. Et effectivement, vous pouvez nous retrouver. Voilà, c'est la fin. Le compte @champion de l'émission sur Instagram, bien sûr, la Fédération Française d'Athlétisme, c'est @FFAthlétisme. Merlin Noté a son Instagram, @MerlinNoté. Et bien sûr, sur Facebook, Quiz de Foot, un ami qui a des cheveux, n'hésitez pas. Le mot de la fin pour toi?
Et bien, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer des petits DM si vous voulez qu'on parle d'une athlète en particulier ou d'un sujet en particulier. On sera ravis de lire tous vos messages.
Voilà, on les lira. Et bien sûr, dans l'édito, sans problème, parce qu'on n'a pas peur. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment aussi. C'était super. Merci à la régie. Merci à l'EGFM de nous faire confiance pour une saison 2. Merci aussi d'avoir été là. Des bisous, évidemment, à Sandrine, Chaïma, Camélia et tout le reste et des gens qui nous écoutent. Des bisous. On va envoyer le jingle. C'est la fin de l'émission. Ça me donne envie d'aller courir. Tiens.
Allez. Bah, pas moi. Allez. Bah...
Allez, des
bonne
bisous.
Soirée.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.